Nous lirons aujourd'hui les trois textes qui nous sont proposés. Tout d'abord dans le livre du prophète Amos, au chapitre 7, les versets 12 à 15. Amatsia dit à Amos, « Va-t'en, visionnaire, va te réfugier au pays de Juda. Là-bas, tu pourras manger ton pain et parler en prophète. » Mais ne continue pas à parler en prophète à Bethel, car c'est un sanctuaire de roi et une maison royale. Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, je suis éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. Le Seigneur m'a pris derrière le troupeau, le Seigneur m'a dit, « Va, parle en prophète à Israël, mon peuple. » Nous allons ensuite dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6. Chapitre 6, les versets 7 à 13. Ayant appelé les 12, Jésus se mit à les envoyer deux à deux, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas deux tuniques. Il leur disait encore, lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne veulent pas vous accueillir, ni vous écouter, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Et puis nous allons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au tout premier chapitre, les versets 3 à 14. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapitulez tout dans le Christ. Ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit-Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. En découvrant il y a quelque temps les textes du jour, je suis resté légèrement circonspect à la lecture du prophète Amos, dont les déboires m'ont paru un peu difficiles à exploiter. Se faire traiter de vulgaire voyant, hein, visionnaire, un voyant, quelqu'un qui lit dans le marc ou qui regarde à travers des boules de verre, alors qu'on est porteur d'une parole divine, c'est déjà pénible. Mais être chassé manu militari comme un malpropre, sous prétexte qu'on est porteur d'une vérité difficile à entendre, tout ça, à la lecture en tout cas, n'a pas engendré chez moi une folle envie de trouver ici, à tout prix, une bonne nouvelle à dire. J'ai bien réfléchi et j'ai renoncé. Il y avait bien les histoires de poussière, vous savez, sur les sandales chez Marc. Ça m'a paru plus parlant, peut-être parce que ça nous rapprochait d'une atmosphère estivale, sandales, poussière, mais pas au point de faire coïncider vraiment un départ en mission avec un départ en vacances. J'ai bien réfléchi et j'ai renoncé aussi. Alors, je me suis plongé dans l'épître aux Éphésiens. La prédestination, le dessein de Dieu arrêté d'avance de toute éternité, les choses voulues, décidées par une grâce qui ne se refuse pas, on ne refuse pas la grâce, etc. J'ai pensé à vous, je me suis dit que vous étiez peut-être en train de préparer vos tongs, vos bermudas, les bouées à tête de canard avec les petits brassards gonflables assortis, la crème solaire indice 50, si nécessaire en ce moment. Et là, ce fut comme une révélation pour moi. Elle m'est presque tombée dessus. De la même manière qu'il y a des lectures de plage, n'y a-t-il pas ici un texte idéal pour les vacances ? Lorsque nous entendons ces expressions de l'apôtre Paul qui s'égrènent comme ça, et ce passage est très dense, on a l'impression qu'on pourrait le reformuler, l'écrire en mettant trois fois plus de textes que lui. On n'en viendrait peut-être pas à bout d'ailleurs. Mais quand nous entendons ces expressions, nous avons l'impression tenace de revenir à une autre époque où l'on croyait effectivement que les rapports entre la terre et le ciel étaient littéralement régis par une volonté puissante, implacable, qui domine tout, qui décide et fait toute chose selon son bon plaisir, celui du prince ou du roi. Nous avons déjà entendu ce genre de formule, et pour être tout à fait honnête, pas que dans des traités de théologie, il nous arriverait fréquemment même de les chanter dans de nombreux cantiques, ici ou là. Que reste-t-il de ces formules aujourd'hui ? Sommes-nous encore capables de les comprendre, de les incorporer à notre manière de vivre ? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Vous vous débrouillerez. La prédestination affirmée ici par Paul assez simplement, il faut le reconnaître un peu en le lisant bien, n'a pas du tout l'insistance des doctrines qu'on a pu par la suite tirer de là. Et puis de quelques autres versets, parce qu'on en trouve quelques mentions ailleurs, et aussi croquignoles que celle-là. C'est peut-être ce qui nous sauve, d'ailleurs. Enfin, façon de parler, bien sûr. Si on s'en tient à l'idée de prédestination, destiné avant, hein, c'est tout à fait clair dans le texte, on trouve généralement une idée, un concept selon lequel le Dieu de toute éternité, mais qu'est-ce que décider de toute éternité, choisit ceux qui seront graciés et auront le droit à la vie éternelle. C'est comme ça que ça s'expose en quelques lignes. Là encore, c'est Wikipédia qui le dit, donc ça doit être vrai. Cette idée est associée au débat philosophique sur le déterminisme et la liberté, sur la nécessité, etc. etc. Bon, je ne veux pas entrer dans ces débats, ça nous emmènerait un peu loin, mais affirmer que nous sommes prédestinés par Dieu, c'est donc interroger aussi d'une certaine manière le degré de liberté dont nous jouissons, nous demander si nous sommes déterminés, si notre vie a une direction donnée d'avance, et dont il est impossible de dévier, ou bien au contraire, si elle permet une certaine liberté de choisir. Parce que être libre, c'est surtout avoir le choix. Imaginez que vous êtes sur une route, au volant d'une voiture, en sortant du péage, par exemple, en allant en direction des plages. Vous êtes au volant de votre voiture et vous ne pouvez emprunter aucune sortie. Pas de bifurcation possible, juste un cheminement imperturbable vers quelque chose que vous n'avez pas voulu. Vous y dirigez, il y a un sens unique sur le côté de l'autoroute où vous êtes, il faut avancer et avancer au même endroit, c'est comme ça. Mais au premier panneau sorti, à la première bretelle, vous pouvez ou garder le cap, ou mettre votre clignotant et prendre une autre direction. Et là, ça change tout. Pourquoi Paul éprouve-t-il le besoin de nous présenter un Dieu qui maîtrise tout en apparence, comme si nous n'étions pas appelés, dans de nombreux autres textes, à devenir adultes, responsables, c'est-à-dire capables de donner une réponse quand une conversation est engagée, qu'on nous pose une question, qu'on attend la suite. Mais est-ce vraiment le cas ? Ce qui frappe dans les mots utilisés, c'est qu'ils ne renvoient pas du tout même à cette idée triste ou nette d'une vie toute tracée. Nous ne trouvons pas cela véritablement dans ce passage, pas plus qu'ailleurs. Paul explique que nous faisons bien face à une volonté divine, ça, elle est là, elle est bien là, consistante, elle se pose là. Mais loin d'être un monologue exclusif, autoritaire, il y a plutôt ici une initiative qui attend une réponse, comme une conversation à peine commencée. Le reste est encore à venir, et apparemment il doit venir de nous. Volonté divine, certes, mais qui attend impatiemment la manifestation de la nôtre. Il n'y a pas que dans l'Épître aux Éphésiens qu'on trouve cette question, il n'y a pas que là qu'elle est abordée, on le trouve aussi dans l'Épître aux Romains, par exemple. Dans son commentaire de cet épître, le théologien suisse Karl Barth explique la prédestination, parce que tous ceux qui ont dû commenter l'Épître aux Romains ont bien dû s'y mettre. Passage obligé. Le théologien suisse explique la prédestination autrement que dans notre imaginaire ou nos habitudes de pensée. Pour lui, le premier mouvement vient de Dieu, c'est la grâce qui vient sur l'homme, un peu comme si elle faisait l'essentiel mais pas tout. La foi n'est rien d'autre que cette réponse qui est attendue de nous. Il est l'un de ceux qui ont compris que ces rapports entre le ciel et la terre sont à double sens, comme dans une conversation, souvenez-vous de l'échelle de Jacob, les anges montent et descendent. Et c'est bien comme cela qu'il faut comprendre notre épître aux Éphésiens. Nous ne sommes pas sur des rails bloqués, contraints. Nous sommes invités à une conversation dont la première phrase a déjà retenti, non comme un ultimatum, mais comme une promesse. On sent presque le point d'interrogation ou les points de suspension à la fin de la phrase. Il doit y avoir une suite. Au fond, nous devrions nous interroger sur le sens possible d'une phrase comme « Je suis déterminé ». Il y a deux manières de comprendre cette phrase, un peu comme dans le cas du verre à moitié vide et à moitié plein. Nous pouvons choisir la version déprimée, pleurnicharde, et n'y voir qu'une forme passive, ce qui est le cas d'ailleurs, « Je suis déterminé », c'est une forme passive. Je suis là où je n'ai pas choisi d'être, je n'ai aucune liberté, je suis actionné par en haut comme un pantin agité par des fils, etc. Mais il y a aussi un autre sens à cette expression « je suis déterminé ». On l'emploie aussi pour dire « je désire, je veux, je suis résolu à faire ceci ou cela ». Et pourtant, c'est la même phrase. C'est vers ce second sens que nous oriente plutôt l'apôtre Paul, loin des formes passives et surtout loin de la résignation. Diderot écrivait « On dit que le désir naît de la volonté. » C'est le contraire. C'est du désir que naît la volonté. Lorsque vous serez d'ici quelque temps sur une plage aussi bondée que la route qui vous y a amené, vous chercherez la crème solaire indice 50 qu'évidemment vous aurez oublié, vous repenserez à cette lecture de plage, car c'en est une, et vous serez alors les heureux détenteurs d'une vie tout orientée vers des réponses à chercher. Et vous le ferez, j'en suis sûr, avec une vraie détermination. Amen.